Avant tout, frères et sœurs, il vaut la peine de nous demander quelques instants pourquoi l'évangéliste saint Marc, comme d'ailleurs saint Luc, nous raconte cette affaire de l'indice que Jésus donne à ses disciples d'aller dans la ville et d'y suivre un homme qu'ils trouveront portant une cruche d'eau sur la tête. Peut-être savez-vous mieux que beaucoup dans notre ville de Paris que dans les civilisations, disons, traditionnelles, le service de l'eau est l'apanage des femmes. Et donc un homme qui porte une cruche d'eau sur la tête est finalement une chose assez rare. C'est peut-être un peu comme si on envoyait quelqu'un au marché à Paris en lui disant de suivre un homme qui tire un caddie. Mais cela arrive peut-être plus souvent qu'à Jérusalem, on ne rencontrait des hommes portant des cruches d'eau sur la tête. D'abord parce que sans doute il faut une certaine habileté pour porter une cruche sur la tête et que les hommes en sont sans doute moins facilement pourvus que les femmes. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de nous demander pourquoi les évangélistes nous racontent, nous rapportent avec soin ce détail, après tout relativement anecdotique. Mais c'est qu'en fait, ils nous montrent ce détail que Jésus a organisé depuis longtemps, on ne sait pas depuis quand, mais en tout cas depuis un certain temps, au moment où ses disciples l'interrogent, Jésus a organisé depuis un certain temps son repas dont il sait qu'il sera le dernier, et il a organisé en quelque sorte à l'insu de ses disciples, à l'insu de ses apôtres, à l'insu de ceux qui sont les plus proches de lui, avec d'autres gens, ce porteur de cruches, les habitants de la maison où il va réunir ses amis, qui resteront anonymes, en tout cas dans l'Évangile. Et ceci est important pour nous faire comprendre, pour nous faire sentir, pour nous faire pressentir ce que les apôtres ont découvert à ce moment-là, qu'en fait Jésus avait préparé cet ultime repas pascal. Non seulement depuis longtemps, était-ce quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe, en fait depuis toujours, il le portait dans son cœur, il avait le désir de le vivre, et d'une certaine façon, toute sa vie terrestre, depuis le mystère de son incarnation, depuis son entrée dans notre chair, jusqu'au jour ultime, avait pour but d'aboutir à ce repas dernier. Et il l'a préparé aussi de tout son être, avec tout ce qu'il est, avec toute son humanité, avec toute sa divinité, pour pouvoir faire ce geste très simple, extérieurement, de rompre le pain et de le distribuer à ses disciples, et de bénir la coupe et de la faire passer parmi ses disciples. Mais chaque fois en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », et que ce soit vrai. Dans ce dernier repas, Jésus fait ce qu'il faut pour que la mort qu'il va subir dans quelques heures ne soit pas une fatalité que les hommes lui imposent, mais le don qu'il fait de sa vie. Il se donne à ses disciples avant que les hommes le prennent. Il se livre entre les mains de ses apôtres avant d'être livré par Judas aux mains des soldats et des grands prêtres. Il offre sa vie et il en fait une source de vie, une nourriture vivifiante avant d'être cloué sur la croix et transpercé par la violence des soldats et par l'épuisement de son corps. C'est parce que Jésus a fait ce dernier repas, l'a célébré, en l'ayant préparé de longue main, depuis des jours, depuis des semaines, mais plus encore depuis le commencement, depuis l'origine, et depuis le plus profond de son être, de Fils de Dieu fait homme, venu pour le salut des hommes, que la mort de Jésus n'est pas simplement la mort d'un héros, comme malheureusement il y en a beaucoup dans l'histoire de l'humanité, mais elle est la mort du Fils unique qui vient vaincre la mort et qui fait de son corps livré, de son sang versé, non pas une chose morte dont les autres peuvent se nourrir à leur guise, mais le don vivant, le don vivifiant de tout son être qu'il veut donner à ses amis qui sont rassemblés ce soir-là à Jérusalem et à travers eux, parce qu'il donne ce don vivant et vivifiant à ses apôtres, il devient le don vivifiant, vivant et vivifiant qu'il peut donner à tous les hommes à travers le temps et à travers l'espace, à travers l'espace et à travers le temps. Lorsque nous participons à la messe, frères et sœurs, nous ne venons pas simplement, vous le savez bien, participer à un rite religieux, comme il s'en fait dans toutes les religions, mais nous venons rejoindre l'intention de Jésus qui veut se donner pour ses amis, ou plutôt nous nous laissons rejoindre par l'intention de Jésus, qui est l'intention déjà du Fils éternel qui obéit à son Père et qui se laisse envoyer parmi nous et qui vient parmi nous pour nous choisir comme ses frères et ses sœurs, alors même que nous sommes des pécheurs, et qui se donne tout entier à nous, mais vivant et vivifiant, pour faire de nous des fils et des filles du Père, ses frères et ses sœurs, malgré notre péché et malgré toutes nos faiblesses. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous nous laissons rejoindre par l'intention de Jésus pour qu'elle vienne pénétrer notre cœur, nous toucher de notre liberté la plus profonde et transformer nos propres intentions. Nous parlons du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, et cette manière de faire peut nous tromper, mais c'est une bonne manière de parler, parce que lorsque nous parlons du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, nous pouvons penser à un objet inerte, comme peut-être un certain nombre de gens qui nous ont vus traverser les rues de Paris, à l'instant, se sont demandé pourquoi nous transportions cette chose blanche dans laquelle peut-être certains ont reconnu du pain, dans lequel peut-être quelques-uns ont reconnu le corps du Seigneur. Mais ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose que nous transportons, ce n'est pas une chose de ce monde, c'est le Seigneur dans l'acte de se donner, dans l'acte de se livrer. Et il a choisi cette forme apparemment anonyme, apparemment anodine, apparemment immobile du pain pour nous donner, pour se donner à nous dans l'acte même où il se livre. Et lorsque nous contemplons le corps eucharistique du Christ, nous ne contemplons pas un objet, nous contemplons le Christ en train de se donner, en train de se livrer, en train de venir à nous, en train de nous partager son intention de nous rejoindre au plus intime, au plus profond, au plus secret de nos âmes, à tous et à chacun, pour nous choisir comme ses frères et ses sœurs et nous fortifier comme des fils et des filles du Père à travers toutes les joies et toutes les épreuves de nos vies terrestres. Les lectures de cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur en cette année nous permettent peut-être de faire encore un pas de plus. Vous avez entendu le raisonnement peut-être un peu complexe de l'Épître aux Hébreux qui évoque le Christ qui s'offre et qui verse non pas du sang d'animaux mais son propre sang de sorte qu'il peut purifier nos consciences. Et nous avons été invités par la liturgie à comprendre ce passage de l'Épître aux Hébreux en contraste avec le récit de l'Alliance conclue au mont Sinaï à la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël, lorsque Moïse, ayant rapporté les paroles de Dieu sur les tables écrites par le doigt même de Dieu, Moïse a fait immoler des taureaux et a aspergé avec le sang des taureaux et l'autel et les tables et le peuple. Peut-être que nous ne comprenons plus très bien ce que signifient ces aspersions de sang, précisément parce que depuis Jésus, elles n'ont plus lieu d'être. Nous n'avons plus besoin de tout cela. Mais disons, frères et sœurs, qu'au milieu de tous les peuples de la terre, au milieu de toutes les civilisations, toutes les cultures, le peuple d'Israël est celui, le seul, à qui il a été donné de comprendre que Dieu n'est pas seulement une sorte de force ou une force multiple dont il faut se concilier les bonnes grâces au prix de quelques offrandes de plus ou moins grande valeur, mais que Dieu est le Créateur qui a tout créé et l'homme au milieu comme un don de sa bonté et qui compte sur ses créatures et en particulier sur les hommes pour faire fructifier sa création, pour qu'elle porte de beaux fruits, pour qu'elle soit source de joie, de paix, d'échange, de bonheur, de partage, pour qu'elle soit l'instrument d'amour entre ses créatures. Le peuple d'Israël est le peuple qui comprend, à qui il a été donné de comprendre, que les hommes ne sont pas ici simplement pour essayer de survivre au milieu de toutes sortes de dieux et de forces plus ou moins contradictoires, en se préservant, en se construisant un petit espace où ils peuvent un peu respirer, mais que Dieu, le Créateur, le Dieu unique et Créateur, a mis toute sa bonté dans la création et compte sur les hommes pour rendre cette création encore meilleure, encore plus féconde, encore plus belle, encore davantage source de joie, d'action de grâce, d'échange et d'amour. Seulement, le peuple d'Israël est aussi le peuple qui fait l'expérience de son échec, qui fait l'expérience que les hommes n'arrivent pas à vivre selon l'intention du Créateur. Et si au Sinaï, l'alliance a été scellée avec le sang des animaux, c'est pour indiquer que c'est une alliance, un engagement des hommes à la vie et à la mort, à la vie, un engagement de tous les êtres, de tout l'être, de tout le peuple d'Israël, dont toute la vie va être de faire fructifier l'œuvre du Créateur, mais ensuite il faut du sang d'animaux pour compenser tout ce qui manque. Parce que si nous réfléchissons bien, frères et sœurs, qui d'entre nous osera prétendre que dans ses actes, il ne met que de l'amour de Dieu et du prochain? Qui peut oser prétendre que même lorsqu'il fait du bien à quelqu'un, il n'y mêle pas un peu ou beaucoup d'orgueil, un peu ou beaucoup d'attente de reconnaissance, un peu ou beaucoup de volonté de commander ou de dominer celui à qui il fait du bien? Nous travaillons inlassablement sur nous-mêmes pour nous purifier de tout cela, mais nous savons bien que nos actes concrets sont toujours mêlés. Et notre grâce, notre joie, c'est de pouvoir disposer de l'acte du Christ, l'acte qu'il a scellé dans son dernier repas lorsqu'il s'est donné à ses disciples sans réserve, sans arrière-pensée, sans rien retenir pour lui, obéissant au Père et choisissant de faire ses frères et ses sœurs ceux-là même qui allaient le livrer et le traduire et le trahir, et cela donc pour qu'il puisse le distribuer ensuite à tous les autres hommes et femmes, à tous ceux qui accepteraient de le recevoir. Cet acte ultime du Christ, il a été préparé, formé, façonné tout au long de la vie de Jésus, depuis le premier commencement de sa vie terrestre, depuis le premier vagissement de l'enfant couché dans la mangeoire, en passant par tous les progrès qu'il a pu faire, enfant et adolescent et jeune homme, à travers toutes ses rencontres, toutes ses découvertes, tous ses émerveillements, tous ses étonnements devant la dureté du cœur des hommes, toutes ses joies, toutes ses peines qu'il a partagées avec les habitants de Nazareth et des environs, à travers tous ses efforts, toutes ses peines, tous ses labeurs, tous ses travaux, comme charpentier d'abord, mais ensuite surtout comme prédicateur du royaume de Dieu. Ce qu'il fait dans son dernier repas et qu'il va être scellé par sa mort sur la croix par obéissance au Père nous assure que tout ce que Jésus a vécu, dans les actes les plus grands comme dans les plus petits, a toujours été pour obéir au Père et pour se donner à ceux qui lui étaient donnés par son Père comme des frères et des sœurs, et non pas pour les dominer, non pas pour se les approprier, non pas pour en faire des choses, des instruments, des objets pour lui, mais pour leur permettre, étant libérés du péché, d'être toujours davantage des fils et des filles du Père en vérité. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous célébrons cet acte-là du Seigneur dans toute sa profondeur, non pas seulement l'acte matériel de distribuer du pain et du vin, non pas même simplement l'acte matériel de mourir sur la croix, mais l'acte intérieur de Jésus que lui seul peut poser et qui consiste à s'offrir totalement de sorte que même sa mort soit non pas la soumission à ce qui est inéluctable, mais encore une fois le don de lui-même fait avec toute sa délicatesse, toute sa force, toute sa profondeur, tout son engagement de fils unique du Créateur. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous remettons nos pauvres actes avec tout ce qu'ils ont de mêlé dans l'acte unique du Christ. Nous n'avons pas besoin d'offrir le sang des animaux, nous offrons au Père son Fils lui-même, qui veut bien, qui se met entre nos mains, précisément pour que nous puissions l'offrir lui, à défaut de nous offrir parfaitement lui-même, et de sorte que nous puissions apprendre au long de nos vies à progresser dans notre capacité de nous offrir, notre capacité d'obéir au Père, notre capacité d'aller vers les autres comme vers des frères et des sœurs à aimer, fût-ce au détriment de notre propre vie. Frères et sœurs, lorsque nous célébrons le Saint Sacrement du corps et du sang du Seigneur, nous célébrons donc notre immense espérance que parce que nous avons entre les mains, parce qu'il y a entre les mains de l'Église l'Eucharistie du Seigneur, alors tout ce que nous faisons, tout ce que nous ébauchons, dans le sens du bien, du vrai, dans le sens du beau, dans le sens de l'amour de Dieu et du prochain, même si tout cela n'est jamais qu'ébauché, même si tout cela est toujours imparfait, même si nos intentions sont souvent mêlées et contradictoires, tout cela vaut la peine, car tout cela peut être repris dans l'acte unique du Christ et par le don total que le Christ a fait de lui-même. Et tout cela donc peut servir à Dieu, le Père, le Créateur, pour sa joie, pour sa gloire, et pour nous faire participer un jour, nous et tous ceux qu'il voudra, à la plénitude de la vie éternelle. Célébrons donc, frères et sœurs, cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, en offrant une fois encore ce grand sacrifice. Unissons à ce que nous avons apporté tous ceux que nous avons croisés aujourd'hui, ce soir dans les rues de Paris, ceux qui s'amusaient, ceux qui se refaisaient leur force, ceux qui faisaient semblant de s'amuser mais pour oublier leur tristesse, ceux qui s'amusaient avec un cœur fermé aux autres, ceux qui s'amusaient mais pour partager leur plaisir ou leur joie avec quelques autres, ceux qui n'étaient pas dans la rue et parce qu'ils étaient cloués chez eux par la maladie ou sur un lit d'hôpital, ceux qui étaient enfermés dans leur tristesse, comme ceux qui pouvaient peut-être partager des joies familiales, présentons tout cela au Seigneur. Il a, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est entré dans la tente non faite de main d'homme, avec, en présentant à Dieu non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il l'a fait une fois pour toutes pour nous tous. Osons tout lui présenter, tout lui demander, tout mettre devant lui pour qu'il le purifie. Et osons croire, frères et sœurs, que c'est notre mission à nous, chrétiens, et spécialement à nous, catholiques, qui avons la grâce de reconnaître dans l'Eucharistie du Seigneur l'intention profonde qu'il a voulu depuis le commencement, le don qu'il fait de lui-même, non pas son corps mort et son sang coagulé, mais son corps vivant et vivifiant, et son sang qui est en nous la source même jaillissante de l'Esprit Saint, de la joie éternelle qui est déjà notre espérance ici-bas. Amen.